Donc là, maintenant, nous allons passer aux commentaires. Nous allons commenter, donc je le rappelle, le passage tiré de la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 8, versets 1 à 24. Je vous en fais la lecture. Nous voulons vous faire connaître, frères, la grâce que Dieu a accordée aux églises de Macédoine, au milieu des multiples détresses qui les ont éprouvées. Leur joie surabondante et leur pauvreté extrême ont débordé de trésors de libéralité. Selon leurs moyens, et j'en suis témoin, au-delà de leurs moyens, en toute spontanéité, avec une vive insistance, ils nous ont réclamé la grâce de participer à ce service au profit des saints. Au-delà même de nos espérances, ils se sont donnés eux-mêmes, d'abord au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Aussi avons-nous insisté auprès de Tite pour qu'il mène à bonne fin chez vous cette œuvre de générosité, comme il l'avait commencée. Mais puisque vous avez de tout en abondance, foi, éloquence, science et toutes sortes de zèle et d'amour, que vous avez reçu de nous, ayez aussi en abondance de la générosité en cette occasion. Je ne le dis pas comme un ordre, mais en vous citant le zèle des autres, je vous permets de prouver l'authenticité de votre charité. Vous connaissez en effet la générosité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, pour vous, de riche qu'il était, s'est fait pauvre pour vous enrichir de sa pauvreté. C'est un avis que je donne à ce sujet. C'est ce qui vous convient à vous, puisque vous avez été les premiers non seulement à réaliser, mais aussi à décider cette œuvre dès l'an dernier. Maintenant donc, achevez de la réaliser. Ainsi, à vos beaux projets correspondra aussi la réalisation selon vos moyens. Quand l'intention est vraiment bonne, on est bien reçu avec ce que l'on a, peu importe ce que l'on n'a pas. Il ne s'agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant les autres, mais d'établir l'égalité. En cette occasion, ce que vous avez en trop compensera ce qu'ils ont en moins, pour qu'un jour ce qu'ils auront en trop compense ce que vous aurez en moins. Cela fera l'égalité comme il est écrit. Qui avait beaucoup recueilli n'a rien eu de trop. Qui avait peu recueilli n'a manqué de rien. Grâce soit rendue à Dieu qui a mis au cœur de Tite le même zèle pour vous. Il a accepté notre invitation et plus empressé encore, c'est spontanément qu'il est parti vers vous. Nous avons envoyé avec lui le frère dont toutes les églises chantent la louange au sujet de l'Évangile. Mieux encore, il a été désigné par les églises pour être notre compagnon de voyage dans cette œuvre de générosité. Service que nous entreprenons pour la gloire du Seigneur lui-même et pour la réalisation de nos bonnes intentions. Nous prenons bien garde d'éviter toute critique dans la gestion de ces fortes sommes dont nous avons la charge. Nous nous préoccupons du bien non seulement aux yeux de Dieu, mais aussi à ceux des hommes. Avec les délégués, nous avons envoyé notre frère, celui dont nous avons souvent, dans bien des cas, éprouvé le zèle et qui maintenant en montre bien plus encore, car il vous fait pleinement confiance. Tite, c'est mon compagnon et mon collaborateur auprès de vous. Nos frères, ce sont les délégués des églises, la gloire du Seigneur. Donnez-leur donc à la face des églises la preuve de votre amour et de la fierté que nous avons de vous auprès d'eux. Alors, la première chose que l'on doit dire, c'est que ici, Paul a écrit ce passage en relation avec une collecte que les Corinthiens avaient l'idée d'organiser et qui a commencé en Macédoine pour l'église de Jérusalem, qui avait des difficultés financières. C'est important de le savoir. Alors je vous propose pour ce commentaire deux phases basées sur l'approche des pères de l'église, les auteurs des premiers siècles de l'église. Nous allons d'abord commencer par une interprétation, disons, littérale ou historique. Littérale ne veut pas dire fondamentale et, je l'espère, adéquate. Et puis nous passerons à ce qui s'appelle une interprétation anthropologique ou morale qui va plus dans les symboles et dans l'intériorité. Commençons donc d'abord par une vue du texte, disons historique ou littérale. Nous voulons vous faire connaître, frères, la grâce que Dieu a accordée aux églises de Macédoine. Alors ici, c'est un passage qu'il faut rapprocher du passage précédent, Nous sommes au chapitre 8. Au chapitre 7, au début du chapitre 7, Paul disait, en fait, à notre arrivée en Macédoine, nous n'avons pas connu la détente, mais toutes sortes de détresse, combat au dehors, crainte au dedans. Et ici, il nous dit, nous voulons vous faire connaître, frères, la grâce que Dieu a accordée aux églises de Macédoine. C'est ici un message d'espérance que, malgré les difficultés, nous devons toujours penser que la grâce de Dieu fera son chemin et que la lumière est au bout du tunnel. Au milieu des multiples détresses qu'ils ont éprouvées, leur joie surabondante et leur pauvreté extrême ont débordé en trésors de libéralité. C'est important parce que ce qui différencie finalement le chrétien des autres, en surface, nous avons des fois l'impression de ne pas être meilleurs que les autres. Nous ne sommes pas fondamentalement meilleurs que les autres. Parfois, nous avons l'impression de ne pas aimer mieux, d'être plus impatient, de ne pas être aussi joyeux, de ne pas être aussi, extérieurement exubérant. Mais c'est pas ça la joie chrétienne. Ici, Paul nous le rappelle, il dit au milieu des multiples détresses qu'ils ont éprouvées, leur joie surabondante. Le chrétien est celui qui est capable d'être joyeux, quelles que soient les circonstances. La plupart des gens le sont joyeux quand ils sont en vacances, quand tout va bien. Bon, il n'y a pas, nous, si nous sommes joyeux dans ces circonstances, nous ne faisons rien d'extraordinaire. Mais ce qui peut frapper les gens, ce qui fait notre marque, c'est que nous pouvons être joyeux même dans la détresse. Alors, comment faire? La réponse nous est donnée. Donc, leur joie surabondante et leur pauvreté extrême ont débordé en trésor de libéralité. Ce qui fait la joie surabondante, c'est la pauvreté extrême. C'est-à-dire l'humilité. Bon, ici, évidemment, on peut prendre à la lettre, c'est-à-dire qu'ils sont pauvres et en même temps des difficultés, ils ont quand même la joie. Mais on peut aussi comprendre pauvreté extrême comme, un peu comme dans la première béatitude, heureux les pauvres d'esprit, le royaume des cieux est à eux. Si nous sommes pauvres dans le cœur, très humbles, nous laisserons vraiment remplir du Seigneur. Et alors, ce n'est plus notre joie, mais c'est la joie du Seigneur qui habitera en nous. C'est très important. Cette joie s'obtient bien sûr en priant le Seigneur de nous la donner, en le fréquentant. Si nous avons les yeux fixés sur le Seigneur, alors comme Pierre, quand il a marché sur les eaux, qui finalement a pu marcher sur les eaux jusqu'au Christ parce qu'il le regardait, et quand il a commencé à regarder un petit peu de chaque côté et vu qu'il y avait du vent, il a coulé. Si nous restons les yeux fixés sur le Christ, si nous, en gros, nous nous vidons de nos peurs, de tout ce qui fait obstacle au Seigneur, si nous avons cette pauvreté de reconnaître que nous avons besoin de lui, alors, pas de problème. La joie viendra, quelles que soient les circonstances. La relation avec le Seigneur, personnelle, dans la prière, est la clé du bonheur. Il faut en être convaincu. Selon leurs moyens, et j'en suis témoin au-delà de leurs moyens, en toute spontanéité et avec une vive insistance, ils nous ont réclamé la grâce de participer à ce service au profit des saints. Et juste avant, il était dit, donc que cette pauvreté et cette joie surabondante a débordé en trésor de libéralité. C'est le Seigneur qui nous donne d'aimer concrètement au-delà de ce que nous pourrions faire. Parce que quand nous sommes déprimés ou parfois dépressifs, il est très dur d'aimer. Il est facile d'aimer quand nous sommes aimés ou quand tout va bien. Mais ce qui nous permet d'aimer au-delà du possible, c'est bien le Seigneur. Donc c'est toujours cette relation personnelle, cette prière qui peuvent nous donner cette joie et cet amour au-delà du possible. C'est aussi le pardon au-delà du possible. Donc au-delà même de nos espérances, ils se sont donnés eux-mêmes. D'abord au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Ce qui donc, ici, c'est l'idée continue, au-delà de nos espérances. Donc, si nous aimons le Seigneur, si nous faisons confiance au Seigneur pour notre bonheur, nous serons heureux au-delà de nos espérances. Et si nous confions toutes nos entreprises au Seigneur, elles réussiront au-delà de nos espérances. Pas forcément comme nous le voulons, mais au-delà de nos espérances, c'est-à-dire plus profondément. C'est intéressant aussi de savoir ici une autre réponse. Ils se sont donnés eux-mêmes d'abord au Seigneur, puis à nous. Il faut d'abord se donner au Seigneur, puis à nous. Donc ici, il faut se donner d'abord à la prière. C'est dans la prière que prend la source du bonheur. C'est le Seigneur d'abord, c'est lui. Et après, cela déborde dans la vie. C'est la prière qui donne le tempo. C'est pas l'inverse. C'est pas à force de volonté que nous arriverons à aimer ou à être heureux, ou etc. C'est par la prière. Il est aussi intéressant d'un point de vue ecclésial de remarquer que, ici, les gens se donnent d'abord au Seigneur, puis à nous. Et nous, c'est l'Église, c'est Saint Paul, etc. C'est une erreur qui est faite parfois, et dans l'Église, et notamment catholique, malheureusement, de penser qu'il faut d'abord que les gens fréquentent l'Église pour en faire des chrétiens. Non. Si on veut une Église efficace, c'est-à-dire fervente, aimante, témoignante, qui porte du fruit, c'est d'abord la relation individuelle et personnelle de chaque personne au Seigneur qui est importante. Et après, seulement une fois que nous avons rencontré le Seigneur, alors l'Église peut nous aider, bien sûr, mais il y a une démarche personnelle d'abord, une rencontre personnelle dont nous ne pouvons pas faire l'économie. Et cette rencontre est fondamentale et fondatrice. Le reste vient ensuite. Il faut comprendre ça dans notre façon de présenter le Seigneur, si nous avons l'occasion de le faire de manière explicite. C'est d'abord le Seigneur, c'est une relation personnelle qui est le fondement. C'est d'abord ça que nous devons viser, dans nos vies aussi, bien sûr. Alors après, le texte continue. Aussi avons-nous insisté auprès de Tite pour qu'il mène à bonne fin chez vous cette œuvre de générosité comme il l'avait commencé. Alors, ici, c'est bien sûr un appel d'abord de sagesse. Il faut toujours finir ce qu'on a commencé. Autrement, ça ne porte pas de fruits. Il faut savoir travailler en profondeur et aimer en profondeur. Il faut se donner à fond. Une fois que nous avons la volonté du Seigneur, si nous savons que nous faisons ce que le Seigneur veut, il faut le faire à fond avec tout notre être. Et c'est d'abord dans l'amour pour nos frères que nous devons le faire. Alors ici aussi, ce qui pousse Paul à ce regain de persévérance, c'est qu'il a su lire les signes. Il dit, regardez, ça se passe bien en Macédoine, donc on va aller plus loin. Eh bien nous aussi, nous devons savoir lire les signes des temps pour que ça nous encourage dans notre persévérance, dans l'amour du Seigneur. Nous devons avoir un regard perçant grâce à la parole de Dieu, pour que malgré les apparences extérieures qui sont parfois négatives, nous ayons toujours le courage de continuer. Alors le texte continue, mais puisque vous avez de tout en abondance, foi, éloquence, science et toutes sortes de zèle et d'amour que vous avez reçu de nous, ayez aussi en abondance de la générosité en cette occasion. Alors ici, il faut savoir que nous avons beaucoup de chance. Si effectivement nous exploitons tous les trésors que l'Église nous offre, à commencer par sa parole, les sacrements, la tradition, nous recevons beaucoup. Et le piège, c'est courant à notre époque, c'est de penser que nous avons notre foi et les autres, ils n'ont pas la foi, tant pis, ils sont libres, c'est comme ils veulent. Bien sûr, ils sont libres, mais c'est parce que nous respectons la liberté qu'il faut qu'ils aient une proposition de la foi. Alors de manière d'abord implicite, par la prière, notre action, notre joie, que nous sommes capables de manifester en toutes circonstances, et aussi quand cela se présente par un témoignage explicite. Ce n'est pas violer la liberté des autres que leur parler du Seigneur. Après, ils font un choix, ils auront un choix à faire, mais ce choix ne pourra jamais être fait si on ne leur fait pas la proposition du Seigneur. Donc l'évangélisation, cela est une obligation, cela fait partie de la vie du chrétien. Hein, c'est ce que dit Paul. Vous avez reçu en abondance, alors, ayez aussi en abondance de la générosité. Donc nous devons être tendus vers la générosité matérielle et spirituelle. Spirituelle, c'est l'évangélisation par la prière, etc. et le témoignage de vie et de parole, si l'occasion s'en présente. Donc vous connaissez en effet la générosité. Ah oui, d'abord, Paul dit, je ne le dis pas comme un ordre, mais en vous citant le zèle des autres, je vous permets de prouver l'authenticité de votre charité. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est suggérant le chrétien zélé, ce qui fait la compétition chrétienne, c'est la charité. La charité est au centre. C'est ça, la marque de fabrique du chrétien, c'est l'amour qu'il a pour son Seigneur et pour les autres. C'est pas comme dans le yoga, la maîtrise de soi, ça, bien sûr, ça compte aussi, mais ou ceci, ou cela, ou telle chose spectaculaire, je pense à certaines philosophies ou religions orientales. Non, le chrétien, c'est la charité, son moteur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Paul respecte la liberté d'autrui. Il dit, je ne dis pas comme un ordre. Hein. Toujours, il faut être respectueux des autres, et que ce soit par notre exemple que les gens soient amenés à être zélés et qu'ils se posent des questions. Vous connaissez en effet la générosité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous, de riche qu'il était, s'est fait pauvre pour vous enrichir de sa pauvreté. Ah, ça c'est le verset phare de ce passage. Alors ce qui est intéressant, c'est que Paul, toujours pour justifier la charité ou pour des choses comme ça, il ne se base pas par rapport à une morale, par rapport à une éthique, mais il prend en exemple le Seigneur. Ce qui doit être notre moteur, c'est la vie du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même, c'est sa parole. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que Paul nous montre quelque chose. C'est l'incarnation. Le Seigneur, il a voulu se faire comme nous, pour mieux nous connaître, pour être plus proche de nous, pour nous entraîner vers lui. C'est-à-dire que le Seigneur ne veut pas nous fusionner, mais il veut communier. Et le signe de cette communion authentique que le Seigneur veut établir avec nous, c'est qu'il a accepté de devenir homme. Et ça guide aussi nos relations avec nos frères. Il ne s'agit pas d'être, nous chrétiens, des êtres de coercition qui utilisent la force, ou de fusion, mais bien de communion. Alors ensuite, le texte continue. C'est un avis que je donne à ce sujet. C'est ce qui vous convient à vous, puisque vous avez été les premiers non seulement à réaliser, mais aussi à décider cette œuvre dès l'an dernier. De nouveau, c'est un avis. Alors ici, Paul dit la même chose. Hein. On a des projets, il faut aussi passer aux actes. Aimer, c'est se donner à fond, une fois que l'on sait que c'est la bonté du Seigneur. C'est toujours se donner à fond, et pas simplement aimer du bout des lèvres. Donc, il faut aussi savoir aimer concrètement. Surtout, je dirais, aimer concrètement. Maintenant donc, achevez de la réaliser. Ainsi, vos beaux projets correspondront aussi à la réalisation selon vos moyens. Donc, c'est l'idée qui continue, hein, toujours. Aimer concrètement. Parce que si nous voulons effectivement être des êtres de communion, il faut aussi se donner. On ne peut pas communier avec les gens si on est en retrait. Quand l'intention est vraiment bonne, on est bien reçu avec ce que l'on a. Peu importe ce que l'on n'a pas. Il ne s'agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant les autres, mais d'établir l'égalité. En cette occasion, ce que vous avez en trop compensera ce qu'ils ont en moins, pour qu'un jour ce qu'ils auront en trop compense ce que vous aurez en moins. Cela fera l'égalité comme il est écrit, qui avait beaucoup recueilli n'a rien eu de trop, qui avait peu recueilli n'a manqué de rien. Alors la dernière phrase fait référence à la manne. Bon, je connais plus le passage exact, bon, c'est dans le livre de l'Exode, ça c'est sûr. Ou alors là, je ne sais pas exactement. Donc les gens ont récolté la manne, et effectivement, ils avaient toujours la même quantité, toujours ce dont ils avaient besoin, très exactement. Alors ici, donc, c'est important aussi parce que c'est la suite de ce que je viens de dire. Quand on communie, on doit se donner à fond, mais pas s'anéantir. La communion, c'est se donner. Mais pour se donner, il faut savoir qui l'on est. Aimer son prochain comme soi-même. Pour aimer son prochain, il faut s'aimer soi-même. Donc c'est très très important. Être chrétien, ce n'est pas anéantir sa personnalité. C'est sûrement faire ressortir sa vraie personnalité, mais pas l'anéantir. Parce que c'est ça la communion. C'est se donner soi-même entièrement aux autres. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que Paul dit pour qu'un jour... ce qu'ils auront en trop compense ce que vous aurez en moins. C'est-à-dire que être chrétien, c'est non seulement se donner, mais être capable de détecter ce que l'autre peut nous donner. Pour qu'il y ait communion, il faut donner et recevoir. Et même si parfois on a l'impression que c'est à sens unique, il faut savoir discerner ce que l'autre, la richesse de l'autre. Un peu comme Jésus qui s'est mis à notre niveau pour pouvoir recevoir aussi notre amour. Parce que qu'est-ce que le Seigneur peut recevoir de nous s'il ne se met pas à notre niveau. Nous devons faire la même chose, nous mettre au niveau des autres pour recevoir d'eux, pour qu'il y ait communion et échange. Ensuite, c'est aussi un message d'espérance, parce que parfois nous avons l'impression qu'il y a peu à recevoir, mais Paul dit, un jour ils auront en trop, pour qu'un jour ce qu'ils auront en trop compense ce que vous aurez en moins. Donc il faut avoir ce regard d'espérance sur l'autre. Il ne faut pas le cataloguer, c'est ça le pardon. Savoir que l'autre peut évoluer, et qu'il évoluera sûrement, grâce au Seigneur. Donc grâce soit rendue à Dieu qui a mis au cœur de Tite le même zèle pour vous. Il a accepté notre invitation et plus encore, c'est spontanément qu'il est parti vers vous. Alors, ici, Paul toujours met Dieu dans l'amour. Grâce soit rendue à Dieu qui a mis au cœur de Tite le même zèle pour vous. Si nous voulons avoir du zèle, de l'amour, c'est de Dieu que ça vient. Donc par voie de conséquence, c'est par la prière que notre amour peut être, si j'ose dire, augmenté ou au moins réchauffé. Et c'est cet amour que la prière donne se met en action. Il a accepté notre invitation et plus impressionnant encore, c'est spontanément qu'il est parti vers vous. Si nous voulons avoir un amour qui agit, il faut beaucoup prier. Ce n'est pas du tout paradoxal, l'un ne va pas sans l'autre. Nous avons envoyé avec lui le frère dans toutes les églises chante la louange au sujet de l'évangile. Alors, au cœur, ce qui doit être important, c'est l'évangile. L'évangile où la parole de Dieu doit nous nourrir. Elle doit nourrir notre action. C'est ça. Dans toutes nos actions, nous devons amener comme un titre. C'est-à-dire celui dont on fait la louange au sujet de l'évangile. C'est-à-dire, notre action doit être nourrie de l'évangile. Elle doit prendre sa source dans la parole de Dieu, dans la prière. Mieux encore, il a été désigné par les églises pour être notre compagnon de voyage dans cette œuvre de Genèse en grosité, service que nous entreprenons pour la gloire du Seigneur lui-même et pour la réalisation de nos bonnes intentions. Alors, c'est pareil. Réalisation des bonnes intentions, gloire du Seigneur, ça va ensemble. Aimer le Seigneur, c'est aimer ses frères. Et on peut aimer ses frères aussi qu'en aimant le Seigneur. L'un ne va pas sans l'autre. Donc il faut aussi se garder d'avoir une foi qui... On peut aimer le Seigneur sans aimer ses frères, ça n'a pas de sens. Saint Jean lui-même, dans une de ses épîtres, disait que celui qui dit aimer Dieu mais n'aime pas ses frères est un menteur. Alors ici, ce qui est aussi intéressant, c'est, donc mieux encore, il était désigné donc titre par les églises pour être notre compagnon de voyage. Alors, dans notre voyage qu'est la vie, dans nos activités, il faut savoir prendre titre, qui est la marque, qui est la grâce du Seigneur, qui est la prière, qui est l'amour. Nous ne devons pas oublier dans nos activités le Seigneur, qu'il y a en soi le centre, que la prière nourrisse nos activités, que la grâce grandisse en nous, pour que toujours dans une activité, ces activités aient la marque du Seigneur. Si nous ne prenons pas titre avec nous, si nous ne faisons pas les choses au nom du Seigneur, si nous n'avons pas toujours le Seigneur en référence, si nous ne sommes pas nourris de la prière, donc prière régulière, mais aussi prière spontanée à tout moment de la journée, eh bien, nous n'amenons pas notre titre, etc. Et la suite du texte dit, nous prenons bien garde d'éviter toute critique dans la gestion de ces fortes sommes dont nous avons la charge. Donc être chrétien, c'est aussi être consciencieux, mettre ses qualités au service des autres, agir concrètement aussi en utilisant notre cerveau et pas simplement en pensant que tout nous est donné, et éviter la critique. Donc il faut éviter toute critique. Bon, on peut nous critiquer, le Seigneur le dit, hein, quand on est chrétien, ça arrive. Saint Pierre le dit aussi dans une de ses épîtres, mais au moins que ce soit pas parce qu'on soit pris en faute. Parce que si on nous critique sans qu'on soit pris en faute, c'est source de grâce pour ceux qui nous critiquent si nous prions pour eux. Si jamais c'est parce qu'on a été pris en faute, c'est contre-témoignage et c'est l'effet inverse qui se produit. Nous nous préoccupons du bien non seulement aux yeux de Dieu, mais aussi aux yeux des hommes. Donc pareil, hein, aimer les frères et aimer Dieu, ça va ensemble. L'un ne va pas sans l'autre. Il faut jamais l'oublier, ce que Jésus disait, bien sûr, hein, les deux plus grands commandements, aimer Dieu, aimer son prochain comme soi-même. Alors, avec les délégués, enfin, nous avons... ce passage d'avant, évidemment, c'est aussi prière et action, hein, aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Donc, avec les délégués, nous avons envoyé notre frère, celui dont nous avons souvent, dans bien des cas, éprouvé le zèle, et qui maintenant en montre bien plus encore, car il vous fait pleinement confiance. Donc ici on parle de Tite. Alors ce qu'on peut remarquer, c'est que Paul voit d'abord le service de l'évangile avant tout. Il ne veut pas se mettre en avant. Bon, il envoie Tite comme si c'était lui-même. C'est important parce que ne jamais utiliser la foi pour se mettre en avant. C'est toujours l'intérêt du Seigneur d'abord, et de nos frères. Donc Paul ici n'a pas envie de se mettre en avant, il envoie Tite. Donc il faut aussi savoir... où est notre intérêt et où est celui du Seigneur. Attention. Ensuite, Donc il dit tout, toujours dans ce passage, ici ils envoient Tite, etc. Car il vous fait pleinement confiance. Quelque part c'est le Seigneur qui nous envoie Tite, c'est l'Église, elle nous fait pleinement confiance. Alors quelle va être notre réaction? Eh bien Paul nous encourage à avoir la réaction suivante. Tite, c'est mon compagnon, mon collaborateur auprès de vous. Nos frères, ce sont les délégués des églises, la gloire du Christ. Donnez-leur donc à la face des églises la preuve de votre amour et la fierté que nous avons de vous auprès d'eux. Donc il faut avoir cet accueil positif. Il ne faut pas décevoir le Seigneur, et il ne faut pas décevoir l'espoir que met en nous l'Église. Comment le faire? Eh bien, en étant réceptif, on en revient à l'humilité, dans la prière, à savoir accueillir la grâce. Je remarque aussi que ici, Paul traite les délégués, enfin non, pas traite, mais identifie les délégués de l'Église à la gloire du Christ. Quelle image avons-nous de l'Église? Malgré ses défauts, l'Église, donc, c'est la gloire du Christ. Je fais remarquer aussi que l'Église, c'est nous. Ce n'est pas que le pape, les évêques et les prêtres, c'est nous. Donc, l'Église fait confiance en nous. Le Seigneur nous fait confiance. Nous voulons être la fierté des Églises, la fierté de l'Église à la face du monde. Il faut avoir un comportement digne d'être chrétien, guidé par la prière et dans l'amour. Et aussi, imprégné de pardon. C'est très important parce que ici, Paul ne nous appelle pas à avoir l'esprit critique, à juger l'Église, mais nous rappelle que nous sommes l'Église et que plutôt que de la critiquer, l'image de l'Église aux yeux des non-chrétiens dépend de nous. Nous avons une responsabilité vis-à-vis du Seigneur et de l'Église. Ne l'oublions jamais. Alors maintenant, je vous propose la deuxième interprétation qui sera un peu plus courte, celle dite tropologique ou morale. Alors, elle a pour principe, disons, de viser plutôt l'intérieur de l'homme, son âme, ou l'intérieur de nos frères, et non plus se placer simplement sur un point de vue extérieur. Alors, là, on va pas interpréter tous les versets, mais ceux qui nous semblent les plus intéressants. Donc, au milieu des multiples détresses qui les ont éprouvées, leur joie surabondante et leur pauvreté extrême ont débordé en trésor de libéralité. Selon leurs moyens, et j'en suis témoin, au-delà de leurs moyens, en toute spontanéité, et avec une insistance, ils nous ont réclamé la grâce de participer à ce service au profit des saints. Au-delà même de nos espérances, ils se sont donnés eux-mêmes d'abord au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Alors ici, si vous voulez, il faut identifier, au milieu des multiples détresses, leur joie, etc. Identifions en nous et en nos frères la semence divine. Toute personne a une soif de Dieu et toute personne a une semence divine. Cette semence divine grandit par la grâce. Dieu, respectant la liberté humaine, ne fait pas grandir cette semence indépendamment de notre liberté. Donc c'est à nous chrétiens que dépend la croissance de la semence en nos frères. Cette semence ne peut croître d'abord que si nous prions pour nos frères. C'est la première chose. Nous verrons après qu'il y a aussi autre chose qui peut la faire grandir. Donc nous sommes chargés de cette semence. Et ce qui peut nous décourager quand nous prions pour nos frères, c'est que c'est très rare que nous prions pour eux et le lendemain, ça y est, ils sont convertis, ils se tournent au Seigneur. C'est plutôt très décourageant. Mais ici, Paul nous dit, regardez cette semence, au milieu des multiples détresses, donc des obstacles qu'il y a dans le cœur de nos frères, eh bien alors, il y a une joie surabondante, cette semence grandit, elle est d'une pauvreté, mais elle va déborder un jour en libéralité. J'en suis témoin, au-delà de leurs moyens, en toute spontanéité, avec une vive insistance, ils nous ont réclamé la grâce de participer. Il y a plus de soif en Dieu dans nos frères que nous le pensons. Au-delà même de nos espérances, ils sont donnés eux-mêmes d'abord au Seigneur, puis à nous. Il faut savoir que ce qui est premier, c'est le Seigneur, c'est sa grâce. Alors n'essayons pas de forcer nos frères d'abord par des témoignages explicites ou en les barbant. Ils se sont d'abord donnés au Seigneur. Cette semence, c'est d'abord la responsabilité du Seigneur. Notre responsabilité première, donc, c'est de prier pour que le Seigneur puisse la faire grandir. Parce que, comme je disais, c'est par la liberté que le Seigneur fait grandir en respectant la liberté humaine. Donc nos frères n'ont pas toujours la capacité de demander à Dieu de faire grandir la semence, mais nous, humains, nous pouvons en quelque sorte prêter notre liberté au Seigneur en priant pour nos frères. Quand un homme prie pour un autre homme, Dieu peut faire grandir la semence chez cette personne. Parce que Nous prêtons comme notre liberté d'humanité au Seigneur, qui peut donc agir en nos frères, tout en respectant leur liberté. C'est aussi par rapport à nous. Nous avons des fois des choses dans notre intérieur qui fait obstacle au Seigneur. Eh bien, ne perdons pas courage. Les choses évoluent, hein, au-delà de ce que nous pouvons penser, malgré les apparences. Que cela nous encourage. Donc, aussi avons-nous insisté auprès de Tite pour qu'il mène à bonne fin chez vous cette œuvre de générosité comme il avait commencé. Ne perdons pas courage. Paul sait avoir des signes. Eh ben, nous aussi, chez nos frères, nous prions pour eux. Eh bien, sachons détecter cette croissance de la grâce, même si elle n'est pas facile à détecter, en nos frères et en nous, et que ça nous encourage à envoyer Tite, c'est-à-dire à redoubler dans nos prières. Mais puisque vous avez de tout en abondance, éloquence, science et toutes sortes de zèle et d'amour que vous avez reçu de nous, ayez aussi en abondance la générosité en cette occasion. Alors ici, c'est aussi un appel, un rappel à la, comment dire, à la lucidité. Même si la grâce croît, ne perdons pas d'objectif que nous prions pour la conversion de nos frères et que la prière sera pleinement exaucée quand explicitement ils se tourneront vers le Seigneur. Il ne faut pas perdre de vue le but, parce que très souvent on se dit, bon, allez, il est plus ou moins ouvert au Seigneur, allez, bon, ça me suffit. Non, non, c'est une conversion explicite au Seigneur, c'est ça le but. Prions, gardons le cap, tant que ce but n'est pas atteint. Hein? C'est-à-dire que ici, par notre prière, la graine chez nos frères ou chez nous, hein, dans ce qui fait obstacle au Seigneur, reçoit de tout en abondance, etc. Alors il faut justement qu'on continue à donner de l'eau à cette graine pour que la grâce continue à croître. Hein. Donc ayez aussi en abondance de la générosité en cette occasion. Hein. Il faut continuer, il faut généreux, prier. Je ne le dis pas comme un ordre, mais en vous citant le zèle des autres, je vous permets de prouver l'authenticité de votre charité. Alors voilà le deuxième moyen. Il n'y a pas que la prière. Il y a un prolongement de la prière. D'abord, Paul ne dit pas un ordre. Donc de nouveau, nous sommes appelés à être respectueux de nos frères. Évangéliser n'est pas égal à prosélytisme. Et ici, Paul parle de la charité. Ce qui peut accélérer l'exaucement et la croissance de la grâce en nos frères et en nous, c'est la charité. Alors par rapport à nos frères, eh bien, quand nous aimons nos frères pour qui nous prions, la graine croît d'autant plus, parce que ça va ensemble. Il est bien évident que si nous prions pour des gens et que nous ne les aimons pas, notre prière n'est pas authentique. Pour nous-mêmes aussi, sachons nous abandonner à la grâce du Père, c'est ça la charité vis-à-vis de nous-mêmes, c'est aussi avoir les yeux lucides, donc sachons nous abandonner. Et donc c'est ça le zèle que nous pouvons aussi avoir par rapport à nous-mêmes, ce qui peut accélérer la croissance de la grâce en nous-mêmes quand nous avons des obstacles par rapport au Seigneur. C'est pas simplement l'abandon au Père, mais c'est aussi faire ce que nous pouvons pour accompagner cette prière. Si nous avons un défaut, nous prions pour ne plus avoir ce défaut, il y a aussi une certaine somme d'efforts à faire qui seront rendus, enfin ces efforts seront de plus en plus faciles à faire, au fur et à mesure que notre prière est exaucée. Mais il faut toujours faire cet effort. Au départ, il est parfois difficile de le faire et il deviendra de plus en plus facile. Donc c'est ça aussi la charité. Ça, c'est par rapport à nous-mêmes. Et l'amour pour nos frères, c'est l'authenticité de la charité, mais pour les autres. Vous connaissez en effet la générosité de notre Seigneur Jésus-Christ, etc. Donc là, je ne vais pas recommenter ce que j'avais commenté tout à l'heure. Donc, le Seigneur, c'est l'exemple. Il faut savoir que donc c'est le Seigneur qui lui, nous, on va dire que nous prions, nous arrosons, mais ce qui fait vraiment pousser, c'est le Seigneur, la grâce. C'est un avis que je donne à ce sujet, c'est ce qui vous convient à vous, puisque vous avez été les premiers non seulement à réaliser, mais aussi à décider cette œuvre dès l'an dernier. Maintenant donc, achevez de la réaliser, ainsi à vos beaux projets correspondra aussi la réalisation de vos moyens. Alors ici, Paul nous rappelle qu'au départ, il y a un projet, donc c'est quelque chose de très profond. C'est dans l'inconscient, c'est dans l'état de projet, mais il faut que petit à petit, ça se réalise. Donc de nouveau, nous avons cette petite graine qui germe, qui est état de projet dans l'inconscient et qui un jour va germer et qui va donner l'action. L'action, c'est le passage, c'est la conversion de nos frères ou c'est notre conversion propre vers un plus grand amour du Seigneur. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, hein. Paul dit, vous avez eu des projets, donc c'est bien, vous priez, etc. Il y a des choses qui se font dans l'inconscient, vous aimez en appui de votre prière, continuez, le but est là, un jour, cette potentialité, ce projet va passer à l'état d'acte. Voilà, donc la conversion potentielle deviendra réelle, et il faut le croire. C'est ça qui nous encouragera à continuer notre zèle pour nos frères dans la prière et dans l'amour. Alors après, quand l'intention est vraiment bonne, on est bien reçu avec ce que l'on a, peu importe ce que l'on n'a pas. Il ne s'agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant les autres, mais d'établir l'égalité, etc. Donc, ici, c'est pas parce qu'on va prier pour nos frères qu'il faut nous en rendre malade. Il faut toujours avoir confiance en Dieu. Nous prions, nous aimons. Tout est dans les mains du Seigneur, c'est lui qui fait grandir. La prière pour nos frères ou la prière pour nos défauts ne doit pas être égale à désespérer. Nous n'avons pas à porter le fardeau de nos frères, c'est le Christ qui l'a fait sur la croix. Nous avons à nous abandonner à la grâce de Dieu. Prions avec ferveur, mais il ne faut pas que ça dégénère en découragement parce que tout ne vient pas vite. Il faut toujours garder à l'esprit de ne pas stresser que le Seigneur a tout entre ses mains. Donc grâce soit rendue à Dieu qui a mis au cœur de Tite le même zèle pour vous. Il a accepté notre invitation et plus encore, grâce soit rendue à Dieu qui a mis au cœur de Tite le même zèle pour vous. Il a accepté notre invitation et plus encore, c'est spontanément qu'il est parti vers vous. Nous avons envoyé avec lui le frère dont toutes les églises chantent la louange au sujet de l'évangile. Donc ici, c'est un petit peu la prière fondatrice. On envoie Tite chez nos frères. C'est la grâce de Dieu. Et Tite va y aller. Soyons convaincus que nos prières, elles sont zélées et qu'elles vont déboucher à ce que l'évangile croisse en nos frères, grandisse en nos frères. Donc, n'hésitons pas à envoyer Tite dans le cœur de nos frères, par la prière, par notre amour pour eux, par ce témoignage, parfois explicite, parfois implicite, mais toujours, qui doit toujours être nourri dans la prière et se traduire par des actes d'amour. Alors toujours ici, c'est l'évangile qui est au centre. Aimer nos frères, parce que c'est pareil, beaucoup de chrétiens, malheureusement, s'imaginent que aimer matériellement suffit. Non, le Christ n'a pas dit nourrissez, et point, il a dit prêchez l'évangile et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enfin, je cite librement. Donc, la plus belle chose que nous pouvons faire pour nos frères, c'est de les aider matériellement et spirituellement. Hein? Nous vous avons envoyé avec lui le frère dans toutes les églises chante la louange au sujet de l'évangile. Mieux encore, il était désigné par les églises pour être notre compagnon de voyage dans cette œuvre de générosité, service que nous entreprenons pour la gloire du Seigneur lui-même et pour la réalisation de nos bonnes intentions. Toujours la prière, hein. Il faut agir pour nos frères, les aimer, etc. Témoigner en actes, etc. Parfois en parole, mais de toute façon, n'oublions pas de nous laisser accompagner par notre compagnon de voyage, qui est Tite, c'est-à-dire l'évangile, la prière, c'est Dieu. Donc, notre compagnon dans cette œuvre de générosité, service que nous entreprenons pour la gloire du Seigneur lui-même, pour la réalisation de nos bonnes intentions. Toujours, nous devons être tendus pour faire découvrir le Seigneur à nos frères. C'est très important, puisque s'il est vraiment la source de bonheur pour nous, s'il est la réponse de Dieu aux hommes, il l'est pour tout le monde. Et donc, n'hésitons pas, dans notre témoignage, en actes et en parole, parfois en parole donc, à amener Tite, c'est-à-dire, ici Tite peut être pris comme la grâce soit rendue à Dieu, etc. C'est celui qui représente donc la prière, l'évangile, la spiritualité. Toujours penser que notre témoignage ne peut être efficace que si il est accompagné de notre prière, qui doit précéder notre témoignage, en parole ou en acte, le suivre, parce que seul le Seigneur peut nous donner l'amour nécessaire et peut faire grandir en nos frères ou en nous-mêmes la grâce. Seul lui donc peut faire ceci. Une fois que nous avons semé, par exemple, font ici le fait d'aimer quelqu'un, de montrer un geste d'amour ou d'un témoignage de parole, c'est le Seigneur qui va après faire germer la semence, ce que nous aurons semé plus ou moins maladroitement par nos actes ou par nos paroles. Donc la prière doit entourer, envelopper nos actions. Nous prenons bien garde d'éviter toute critique dans la gestion de ces fortes sommes dont nous avons la charge. Nous nous préoccupons du bien non seulement aux yeux de Dieu, mais aussi à ceux des hommes. Avec les délégués, nous vous envoyons notre frère, celui dont nous avons souvent dans bien des cas éprouvé le zèle, et qui maintenant en montre bien plus encore, car il vous fait pleinement confiance. Alors ici, nous envoyons Tite par nos prières, c'est comme nous envoyons Tite, nous envoyons la grâce de Dieu en nos frères, nous envoyons l'eau qui fait germer la graine en nos frères, et nous faisons pleinement confiance. Ce qui fait que cela va germer, ce qui fait que, Tite va être bien reçu, c'est que nous faisons pleinement confiance. C'est que aussi ce Tite que nous envoyons, il est plein de confiance. Nous avons pleinement confiance en l'exaucement de nos prières. Tite, c'est mon compagnon, mon collaborateur auprès de vous. Nos frères sont les délégués des églises, la gloire du Christ. Donnez-leur donc, à la face de l'église, la preuve de votre amour et la fierté que nous avons de vous auprès d'eux. Donc, nous envoyons Tite, et cet envoi est chargé de confiance. Donc, si nous prions, nous devons être persuadés de l'exaucement de nos prières. Autrement, à quoi cela sert-il de prier? Prier, c'est pas simplement... C'est d'abord passer du temps avec le Seigneur, mais si nous demandons quelque chose au Seigneur selon sa volonté et la conversion d'une personne ou notre propre conversion toujours davantage pour aimer le Seigneur ne peut être que selon sa volonté, il faut le faire avec la foi en l'exaucement de sa prière. Alors exaucement qui peut être parfois différent de ce que nous pensions, mais fondamentalement la personne devons avoir foi que la personne pour qui nous prions se tournera un jour vers le Seigneur ou que nous-mêmes nous aimerons toujours davantage le Seigneur. Alors ici, les derniers versets que je viens de lire, donc donnez-leur donc à la face des églises la preuve de votre amour et de la fierté, etc. Ça nous rappelle quand même que le point de, la pierre angulaire, c'est vraiment le passage à l'exaucement, c'est la liberté, c'est le oui de nos frères. Ce qui va faire enfin que nos frères se donnent au Seigneur, c'est leur oui. Et ce oui peut prendre plus ou moins de temps. C'est vrai que nous prions, c'est très long. Le Seigneur nous donne la persévérance. Nous devons avoir la foi, comme nous l'avons vu au début de ce passage, en Macédoine, au milieu de la détresse, etc. Paul voit des signes d'être joyeux, une joie surabondante malgré la pauvreté extrême de la semence. Donc ça doit nous donner du courage pour prier. Mais il ne faut pas oublier que l'exaucement de nos prières est conditionné au oui de nos frères. Donc, effectivement, c'est leur liberté qui est là, et cela peut donc prendre plus ou moins de temps avant que, librement, ils disent oui. Il ne faut pas l'oublier. Cela nous rappelle aussi qu'il faut respecter leur liberté par la prière et par l'amour, ce qui parfois fait que nous ne pouvons pas toujours témoigner explicitement, ou que nous devons parfois savoir nous mettre en retrait et respecter leur réticence qui, attention, ne sont que temporaires, puisque la semence, en grandissant, va faire disparaître petit à petit ses réticences. Nous devons savoir attendre. Le Christ lui-même n'a pas voulu que l'on dise qu'il soit le Messie avant qu'il soit ressuscité. Il y a des moments pour tout. C'est aussi pour nous le fait de dire oui. Soyons toujours, quand nous prions pour nous-mêmes, pour que nous avancions sur le chemin de la perfection, soyons toujours disponibles à la grâce de Dieu et toujours prêts à dire oui, même si c'est pas du jour au lendemain que ça va se passer, mais au fur et à mesure de nos oui, à l'image de Marie, le Seigneur vient s'incarner en nous. Voilà, toujours davantage. Voilà, donc j'ai fini ce petit commentaire. Maintenant, prions, si vous le voulez bien. Alors je vais vous laisser pour cela un temps de silence, où vous allez pouvoir prier à partir de ce commentaire. Ensuite, je me joindrai à vous en priant à haute voix. Et enfin, je vous laisserai un nouveau temps de silence pour vous permettre de faire vôtre cette prière. Seigneur, apprends-nous toujours davantage à aimer. Apprends-nous que la charité est au centre de notre foi. Amour envers toi, amour envers nos frères. Apprends-nous vraiment à aimer. Et Seigneur, fais de nous des êtres de foi. Apprends-nous à persévérer dans l'amour et la prière, à ne pas nous décourager. Et rends-nous toujours davantage disponibles à ta grâce. Enfin, Jésus, nous prions pour nos frères. Nous avons peut-être des frères en tête. Continue. Nous leur envoyons Tite. Fais germer en eux ce Tite, que cela devienne une grande plante, qu'un jour il se tourne vers toi. Maintenant que nous avons commencé de prier pour eux, donne-nous la grâce de les aimer toujours davantage et de ne jamais cesser de prier pour eux. Alors, un jour, ils diront oui à ta présence. Amen. Alors j'espère que ce moment passé avec la parole de Dieu en ma compagnie vous a aidé à vous rapprocher du Seigneur. Soyez assurés de ma prière. À bientôt, je l'espère, chers internautes.
Free audio post-production by Alphonic.com.